Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été. On est ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, est-il possible d'aimer sa police ? Est-ce qu'il est normal d'avoir peur de sa police ? C'est le cri d'une manifestante lancée un soir de mai devant un cortège de policiers aux abords de l'Assemblée nationale pendant les manifestations contre la loi travail. Au même moment, dans un sondage publié dans Le Parisien, on apprenait que 72% des personnes interrogées y jugeaient la police plutôt efficace. Pour autant, plus de la moitié de l'échantillon pensait que chaque citoyen ne serait pas traité de la même manière selon son origine. Signe d'une relation ambiguë en France entre la population française et sa police, quelque part entre le respect, on l'a vu au lendemain des attentats, et une certaine défiance quant à la logique de leurs actions. Dernièrement, c'est le New York Times qui, dans son édito daté du samedi dernier, a pointé, je cite, « cette culture de l'impunité dans la police française », un texte paru le jour d'une manifestation à Paris en hommage à Adama Traoré, décédé il y a 3 semaines à la suite de son interpellation. Le Black Lives Matter américain s'est exporté en France pour mettre de nouveaux mots sur un reproche récurrent depuis plusieurs décennies. Il s'agit donc de regarder ce soir ce qui s'apparente à une impasse sociale, politique, entre une partie de la population qui a définitivement rejeté sa police et une certaine police qui semble, elle, avoir perdu le sens de sa mission. Alors, est-il possible d'aimer sa police ? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, Céline Berton est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale, le SCPN. En face de vous, Frédéric Langlois, bonsoir.
Alexandre,
c'est noté. Alexandre Langlois, bonsoir. Autant pour moi. Vous êtes gardien de la paix au renseignement territorial, toujours sur le terrain, et vous êtes également secrétaire général de la CGT Police. Là, je ne me trompe pas.
C'est bon.
Et notre troisième invité est avec nous depuis les locaux de France Bleu Loire-Océan, à Nantes. C'est Pierre Douillard-Lefèvre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes étudiant en sociologie, essayiste, auteur d'un essai paru ces derniers mois aux éditions du Bord de l'eau. C'est « L'arme à l'œil, violence d'État et militarisation de la police ». Alors, je voudrais revenir une seconde sur ce Black Lives Matter, les vies noires comptent, qui nous ramène aux États-Unis, là où le contexte est quand même assez différent, un contexte de violence policière très particulier. Selon les chiffres dont on dispose, qui ont été recensés par le Washington Post et le Guardian, en 2015, 1100 personnes ont été tuées par la police. Qu'est-ce que ça dit, ce Black Lives Matter qui arrive en France, qu'est-ce que ça dit de l'image que la population française a de la police aujourd'hui ? Céline Berton.
Alors, je suis gênée pour répondre à votre question parce que vous venez d'évoquer des chiffres assez effrayants de victimes tombées sous les coups de la police américaine. Je ne veux pas résumer à ce sujet à cela parce qu'évidemment, nous aurons un débat dont je ne doute pas qu'il sera riche.
Il va s'ouvrir, effectivement.
Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que on va parler de la police, de sa relation à la population, de la manière dont elle est considérée, des enjeux qu'il peut y avoir dans certaines violences qui ont pu être exercées de part et d'autre. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on est très très loin en France, et heureusement, d'un tel constat. Par bonheur, et nous sommes tous attachés à ça, parce que nous sommes tous avant tout attachés à la
paix
publique.
Nous en sommes où en France, Céline Berton ?
Ah ben, produisez-moi des chiffres de personnes tombées sous les coups de la police ou de la gendarmerie. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas, attention, hein, je ne dis pas qu'il n'en existe pas.
Ils sont très difficiles à trouver, en tout cas, en France.
Ah, mais ils ont rien à voir. Vous vous rendez compte que là, rappelez-moi le chiffre que vous avez donné.
1115 personnes.
Voilà, en France, on doit pas avoir plus de 500 homicides par an. Je mets de côté les sujets de terrorisme qui viennent, évidemment. Donc vous imaginez, on est, et par bonheur, une fois encore, sans commune mesure. Et une chose est certaine, nous ne voulons pas d'un modèle de société américain, nous ne voulons pas d'un modèle de police américaine.
Alexandre Langlois, sur cette question, qu'est-ce que cette importation en France dans les manifestations contre les actions de la police, du Black Lives Matter, dit de l'image aujourd'hui dont pâtit la police ?
L'image dont pâtit la police, déjà, on rappelle que les derniers sondages, c'est 82% des gens qui aiment la police au mois de mai dernier. Donc l'image, bon, il y a toujours des gens qui n'aimeront pas la police.
80%.
Qui... Bon, 80%, autant pour moi. Bon, il y a toujours des gens qui n'aimeront pas la police. Donc après, on peut se trouver une légitimité avec n'importe quoi. Comme a dit Madame Berton, la situation en France n'a rien à voir avec la situation américaine. Et pour les chiffres, en France, dès qu'il y a quelqu'un...
Ça, on est d'accord, mais qu'est-ce que ça dit de l'image, du symbole, en fait, de l'image que la population a de la police aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'image.
C'est une association américaine, mais je veux dire, en France, ça représente pas toute la France, pas tous les Français. On dit maintenant, on est dans cette association. Je veux dire, c'est une minorité de personnes qui vont aller dedans. Bon, c'est pas, je veux dire, c'est, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, et nous, on a le droit de dire que la police fait quand même, dans grande majorité, bien son travail, et qu'il y a quelques épiphénomènes qui sont cités. Et en général, nos collègues sont condamnés, parce qu'on est quand même la fonction publique la plus sanctionnée, la plus surveillée. Avec encore une petite précision, c'est que le cas de que vous citez là, c'est les gendarmes qui étaient à la barre, c'était pas les policiers. Donc après, c'est des militaires, ils ont pas les mêmes modes opératoires, etc. Donc voilà. Après, il y a des choses qui se mélangent, mais en général, les gens aiment leur police.
Mais dans l'image, la police englobe quand même, dans l'image que la population de sa police, la police englobe quand même les gendarmes, les CRS aussi. Pierre Douillard-Lefebvre, dans l'essai que vous avez écrit, il n'est pas question que de police.
Oui, bien sûr, il s'agit de tous ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre. Là, je suis assez étonné d'entendre un adhérent de la CGT qui dit que la police est sanctionnée. Alors effectivement, il y a une opacité énorme en France sur les tués et les mutilés par la police. Hein. Il n'y a aucune traçabilité, contrairement à d'autres pays comme en Allemagne ou aux USA. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est par exemple sur le cas des mutilations au LBD, il y a plus de 40 cas recensés. Lanceurs de balles de défense, donc des personnes mutilées au visage par des balles en caoutchouc. Depuis 2007, on est à plus de 40 personnes atteintes gravement au visage. Et en ce qui concerne des personnes décédées aux mains de la police, on est entre 10 et 20 morts par an en France. Donc si, il y a des chiffres, il y a des familles qui luttent. Dans l'immense majorité des cas, il y a l'impunité. Et donc pour finir sur la question du parallèle entre la police américaine et la police française, en réalité, ce qu'on observe, c'est en France une militarisation de la police, c'est-à-dire un armement accru. On l'a vu à Beaumont-sur-Oise au moment de la révolte qui a suivi la mort d'Adama Traoré. Les gendarmes ont sorti des fusils d'assaut. C'était totalement nouveau hein, dans le cadre du maintien de l'ordre en France. À ma connaissance, c'est du jamais vu depuis très très longtemps. Et donc on voit qu'il y a un alignement justement de la police française sur les standards anglo-saxons et sur une police militarisée, armée, surprotégée et intouchable. Donc en réalité, oui. C'est la police américaine, c'est la police française de demain.
Céline Berton, il y a une militarisation de la police, comme l'évoque Pierre Douillard-Lefebvre.
J'entends bien ce que dit Monsieur Douillard-Lefebvre. Il a malheureusement une histoire personnelle dont je comprends qu'elle puisse être à l'origine d'une sensibilité particulière sur ce sujet, d'une
c'est
vigilance.
Une analyse.
Je ne vous ai pas
précisé juste Pierre Douillard-Lefebvre, excusez-moi, j'ai un problème avec les prénoms aujourd'hui, que vous avez perdu. Donc votre livre s'appelle L'arme à l'œil, en référence à l'œil que vous avez perdu lors d'une manifestation en 2007. Vous avez été touché par un tir de balle.
C'est ça, à ce moment-là, le LBD 40 dont je parlais il y a un instant était en expérimentation et aujourd'hui il est généralisé. Par exemple, il a gravement blessé, il a fait perdre l'œil d'un étudiant il y a quelques semaines dans une manifestation à Rennes. Donc voilà la logique de la militarisation dont je parlais il y a un instant.
Je rappellerai alors je ne reviendrai pas sur l'affaire dont monsieur Douillard-Lefebvre a été la victime. Elle a été partiellement jugée pour la justice et au demeurant j'estime ne pas avoir à m'exprimer sur ce sujet. Pour le sujet qui vient d'être évoqué, qui est celui d'un étudiant de Rennes qui a été blessé. Je rappelle qu'il y a une enquête en cours de l'IGPN, que les conclusions n'en sont pas rendues, donc il est toujours délicat de se prononcer sur ce qui s'est réellement passé. Une chose est certaine, c'est que la mission prioritaire de la police, et on va l'étendre aux forces de l'ordre, parce qu'on parle des forces de l'ordre, quand il s'agit notamment de gérer le sujet du maintien de l'ordre, même si tout le monde ne peut pas être en accord avec ça ou ne sera pas en accord avec ça, ça consiste avant tout à permettre le plein exercice des libertés de manifester dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Meilleures conditions possibles pour les manifestants eux-mêmes, mais aussi pour les lieux où se déroulent les événements. Et la mission de la police et de la gendarmerie, c'est également de protéger les personnes, mais les biens. Et je trouve normal que l'État se préoccupe de s'assurer qu'une manifestation ne donne pas lieu à des débordements et à des dégradations en tout genre. Il y a une réalité. C'est celle de aussi, et ça on parle de l'équipement policier, il ne faudrait pas qu'on oublie en parallèle le fait que quand la police a à réagir, dans la plupart des cas, dans l'immense majorité des cas, quand la police a à réagir et à devoir répondre, c'est parce qu'elle est elle-même la cible de violence, ou qu'elle doit protéger des personnes qui en sont la cible, ou qu'elle doit protéger des biens qui en sont la cible. La réalité, c'est aussi, sur certains types de manifestations, alors on peut débattre très longuement du maintien de l'ordre à la française, mais c'est aussi la réalité d'un changement de manière glissante sur des années, du comportement des manifestants, pas des pacifiques, hein, mais de ceux qui sont animés par la volonté peut-être de casser ou de blesser. Et c'est aussi la militarisation des participants à certains mouvements. Sur les manifestations de la loi El Khomri, je pense qu'on a quand même tous été frappés par le niveau de violence d'un certain nombre d'acteurs. Parler. C'est le cas à Nantes, c'est le cas à Rennes. Donc oui, il peut y avoir une posture policière qui a changé. Je rappelle toutefois quand même que la nécessité de doter les forces de l'ordre de moyens, on les appelle les moyens de force intermédiaires. Ça reste des moyens de force, ça reste des moyens de défense. Et ça a été une nécessité aussi de ne pas en rester au corps à corps. Parce que le corps à corps, ça fait aussi des blessés.
Juste une chose, Céline Berton, parce qu'il y a plusieurs idées dans ce que vous évoquez. La première, c'est que vous dites que les forces de l'ordre sont là pour permettre des conditions de sécurité pendant les manifestations. Que dire de la manifestation du samedi dernier où plusieurs manifestants étaient réunis pour rendre hommage justement à ce jeune homme que j'évoquais en début d'émission, Adama Traoré, et qui ont été nassés, bloqués pendant 3 heures, qui est une pratique qu'on voit surtout, qu'on voit depuis plusieurs mois dans les manifestations contre la loi travail.
La pratique, alors,
est-ce que ça garantit la sécurité ?
Je ne m'exprimerai pas sur un sujet dont je ne connais pas la technicité, parce que je suis secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale, et donc j'exerce sur les secteurs couverts par la police nationale et pas par la gendarmerie nationale, et ça c'est une affaire qui se déroulait en zone gendarmerie nationale. Pour autant, les pratiques de maintien de l'ordre, même si elles divergent sur un certain nombre de sujets, sont assez, je dirais, concordantes. La pratique de la nasse, et je répondrai en général, hein, et pas sur ce fait en particulier, parce que je ne le connais pas, la pratique de la nasse est une pratique qui a souvent été pratiquée en maintien de l'ordre. L'idée étant de contenir des personnes, soit parce qu'on voulait les éviter de passer à l'action sur des phénomènes violents, parce qu'on connaissait leur intention de passer à l'acte, soit peut-être parfois pour les contenir, pour empêcher de se rendre sur des secteurs qu'on voulait leur empêcher d'atteindre. Y a un vrai enjeu sur la pratique de la NAS, et à mon avis, c'est un sujet de maintien d'ordre à la française, c'est celui peut-être de la pédagogie ou de l'explication des manœuvres. Je pense que des difficultés qu'on a pu connaître sur certains maintiens de l'ordre, c'est peut-être que l'immense majorité des participants à des manifestations, qui sont des gens pacifiques, qui sont là pour exprimer une liberté démocratique, donc de manifester dans la rue, n'ont pas forcément une vue d'ensemble d'un dispositif policier, de ses objectifs, des manœuvres. Et ça peut parfois peut-être générer de la crispation, de la frustration, de l'impatience. Voilà. Mais je ne m'exprimerai pas plus sur Beaumont parce que je n'ai pas les éléments.
Pierre Douillard-Lefebvre, vous voulez réagir ?
Oui, ce qui est intéressant, c'est que là, on assiste à un double récit, en fait, qui est totalement déconnecté de la réalité du terrain. C'est d'une part l'idée que les policiers protègent les personnes et en particulier les manifestants. Quiconque a mis les pieds dans une manifestation ces 4 derniers mois sait que la police systématiquement, méthodiquement a attaqué les cortèges. On l'a vu à Nantes, on l'a vu à Rennes, on l'a vu à Paris. Ça a donné lieu à des centaines de blessés. Le bilan des blessés n'est pas totalement établi, mais c'est sans doute sans précédent effectivement depuis des décennies. Donc avec une logique, hein, on l'a vu aussi pour la grande manifestation nationale à Paris, avec une logique d'encagement du cortège, d'attaque latérale des cortèges pour faire monter la pression. Donc là, on assiste à un récit qui est déconnecté de la réalité. Et un deuxième récit, c'est sur le changement de comportement des manifestants. Il suffit de faire un tout petit peu d'histoire sociale, hein. Moi ça m'intéresse par exemple, mais je suppose que des policiers formés, dégradés, etc. s'intéressent également à l'histoire des mouvements sociaux. On sait très bien que ce soit des manifs d'agriculteurs, que ce soit les manifs de pêcheurs, ou également les grands conflits ouvriers des années 50, 60, 70, étaient d'une intensité infiniment plus forte que ce qu'on a pu voir ces derniers mois. Donc on a eu au contraire une pacification des mouvements sociaux et en parallèle une militarisation de la police, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la police prend l'habitude de tirer en tir tendu sur des cortèges, ce qui était du jamais vu depuis l'après-guerre. Hein, ça personne ne le nie, on tire des balles en caoutchouc mais on reprend l'habitude de tirer en tir tendu sur des foules, et donc là c'est la fin du modèle du maintien de l'ordre à la française, si tant est qu'il ait existé, où on repoussait une foule. Aujourd'hui on lui tire dessus, on essaye de frapper les corps, on essaye de frapper les chairs dans l'objectif assez clairement assumé, hein, par Bernard Cazeneuve, d'intimider.
Alexandre Langlois, je voudrais juste avoir votre avis. Vous partagez un peu l'avis de Pierre Douillard-Lefebvre sur le fait que les manifestations sont quand même un peu plus pacifiques aujourd'hui.
En fait, il y a dans le sujet de la manifestation, il y a les manifestants qui, eux, sont de plus en plus pacifiques, qui sont dans les cortèges syndicaux. Et par contre, il y a des groupuscules qui sont à la tête des cortèges et que je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas interpellés immédiatement. Donc ça, c'est un autre débat.
Parce que vous les voyez arriver.
On les voit arriver, il y a les services de renseignement qui les voient arriver. Des fois, ils s'équipent carrément devant nos collègues et des fois, ils arrivent, on pousse les CRS pour les laisser passer.
Aucun ordre.
Mais des fois, on les a même laissés passer. Donc c'est complètement aberrant. différent et ça fait des blessés à la fois chez nos collègues policiers. Et après, quand les policiers interviennent ou les gendarmes, ils interviennent, eux, ils sont déjà partis parce qu'ils sont beaucoup plus organisés qu'avant, ils sont beaucoup plus violents qu'avant. Et eux, ils partent, et ce qui fait qu'il y a des dommages collatéraux sur des manifestants qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait. Pour avoir vécu les manifestations des deux côtés, à la fois du côté policier et à la fois du côté dans les manifestations cortège CGT, notamment par exemple pour les NAS dont on parlait tout à l'heure, il peut y avoir des techniques, mais les NAS sur les arrivées des places, on ne peut pas sortir. C'est complètement scandaleux, les gens pètent les plombs, ils ne savent pas comment sortir, et nous c'est arrivé. On allait voir tous nos collègues sur tout le tour de la place pour savoir par où on sortait. Chacun nous disait c'est par là, c'est par là, c'est par là. Et à la fin ils nous ont dit les seules personnes qui pourraient vous dire où sortir en fait, bah, c'est la salle de commandement, mais on nous a dit qu'on n'a pas le droit de vous laisser sortir. Et pendant ce temps-là on se faisait tirer dessus avec des grenades lacrymogènes. Bah, je veux dire pour qu'on se disperse, mais on ne pouvait pas. Donc il y a des choses où on veut que ça dégénère. Et on a l'impression que c'est pour que ça reste dans les images qu'on garde et pas sur ça blesse des gens de chaque côté, et c'est les images malheureusement qu'on garde et pas le fond du problème.
Alors avant d'aller plus loin sur cette absence, ce manque peut-être de coordination entre les policiers qui sont sur le terrain et les ordres qu'ils peuvent recevoir, je voudrais vous faire écouter un extrait sonore, ça nous fait remonter 3 mois en arrière. On est sur la place de la République, à côté des participants au mouvement de la Nuit Debout. Le syndicat de police Alliance a appelé à une manifestation contre la haine anti-flic. Vous y étiez d'ailleurs, Alexandre Langlois, je crois. Et c'est un extrait donc d'un documentaire de Les Deux Manifs, diffusé dans l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture par Rémi Douat, Pascal Pascariello et Eric L'Ancien.
Je peux vous poser des questions ?
Oui.
Alors, ok, et quand jeudi dernier, le 12, on est rentré dans une paroisse et qu'on était visé clairement en tir tendu par vos collègues, est-ce que vous trouvez ça acceptable alors qu'on avait mis un drapeau avec une grande croix rouge, on était tous les bras en l'air pour montrer qu'on n'avait rien et que vos collègues étaient là avec toutes les armes pointées vers nous en tir tendu? Est-ce que vous trouvez ça normal, honnêtement, et acceptable?
Après, le tir tendu n'est pas autorisé dans la police nationale. Je vous invite à aller voir les responsables de l'IGPN pour recueillir votre témoignage.
Mais vous, personnellement,
oui,
qu'est-ce que vous en pensez?
Je vous dis que normalement, ce n'est pas prévu dans les techniques d'intervention de la police nationale. Il est utilisé énormément de fonctionnaires de police qui ne sont pas habitués au maintien de l'ordre, parce qu'il y a eu une réduction des fonctionnaires de police. Donc du coup, on est en train de ramasser énormément de fonctionnaires dans les commissariats qui ne sont pas habitués au maintien de l'ordre, qui ne savent pas faire le maintien de l'ordre. Donc on se retrouve forcément avec des problèmes et avec des graves dérapages. D'ailleurs, il y a la justice qui a été saisie et on verra bien ce que la justice dira. Hein. Nous sommes venus voir les manifestants, nous sommes venus échanger avec vous et voilà.
J'ai écouté votre discours.
Voilà.
Et
les gens étaient contents de nous voir.
Contents, peut-être pas tous,
mais certains étaient.
Votre acte, personnellement, ça m'a plus fait plaisir qu'autre chose. Ça nous prouve que tous les flics ne sont pas cons à nous frapper dessus.
Si c'est passé, c'est bien. Ne vous inquiétez pas, les policiers sont très humains.
Je respecte tout à fait votre avis, mais pour le moment, j'ai jamais vu de policiers, que ce soit nous protéger ou quoi. Je me suis plus fait frapper, gazer, menacer, intimider par la police que protéger.
Alors, ce qu'on vient d'entendre nous interpelle à plus d'un titre, mais il y a quand même cette phrase d'un fonctionnaire de police, un de vos collègues, vous m'avez dit, Alexandre Langlois, c'est que ceux qui sont appelés sur le terrain du maintien de l'ordre, ça, parfois ne savent pas faire, et donc, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un problème de formation? Est-ce que la défiance aujourd'hui qu'une partie de la population peut ressentir par rapport à sa police peut se régler par une réforme ou une amélioration, un approfondissement de la formation? Alexandre Langlois.
Alors juste avant, j'ai une petite précision sur la manifestation du 18 mai là, sur la haine anti-flic. Nous, on n'était pas sur ce mot d'ordre là, on était sur rapprochement police-population. Donc on a fait une partie de la manifestation sur la place de la République et une deuxième partie qui a été présentée comme l'anti-manif. Et là, on entend des délégués CGT qui discutent avec les gens finalement qui ne nous ont pas spécialement agressés. Ensuite, sur la formation, il y a un exemple qui a fait le tour des médias, c'est notre collègue qui a donné un coup de poing devant le lycée Bergson. Tout le monde a déjà, tous les médias ont d'abord dit que c'était un CRS. Premier temps, donc c'est pas du tout un CRS, c'est un collègue qui est commissariat de quartier. On l'a équipé comme un CRS, on lui dit vas-y, fais cette mission-là. Il n'était pas équipé pour ça, il n'avait pas l'expérience nécessaire, il avait 26 ans, il vient de province, parce que savoir qu'il y a beaucoup de policiers qui viennent de province, qui sont déracinés, qui ne connaissent pas la culture de Paris, en fait, qui est quand même une grosse ville et qui n'a rien à voir. Donc nous, la chose qu'on a mis en avant, c'est que moi je suis allé au procès de ce collègue qui a été reporté, voir pas s'il était coupable ou pas, ça la justice fait son travail, mais voir si le donneur d'ordre qui l'a mis dans cette situation serait à la barre aussi. Et il n'était pas à la barre. Ce qui nous pose problème, c'est-à-dire qu'en fait, un nouveau collègue pourra être remis dans cette situation, et il y aura le même dérapage, les mêmes problèmes, et enfin les mêmes blessés de chaque côté. Et ensuite, pour la formation, là, on est dans une crise de manque d'effectifs, parce qu'on a pris beaucoup de matériel pour pallier le manque d'effectifs. C'est ce que je voulais revenir tout à l'heure aussi. Il y a des équipements, notamment les flashballs et tous les trucs comme ça, sur les manifestations à Nantes et Rennes. Faute d'effectifs, nos collègues sont obligés de s'en servir, je veux dire, parce qu'on leur donne pas les moyens d'exercer leur mission en toute sécurité, alors qu'à Paris, il y a les effectifs nécessaires pour limiter l'utilisation de ces armes. Ensuite, sur la formation, les dernières promotions de gardiens de la paix sont sorties avec que 9 mois d'école et après, il y a 3 mois de stage qui sont faits dans la formation. Faute de temps, on les a envoyés à fond les ballons en disant vous allez sur le terrain directement à la sortie. Pire, la dernière promotion qui est sortie au mois de juin, toute la promotion a été affectée temporairement, mais au fan zone sur Paris. C'est-à-dire que c'est des endroits où il y avait des risques d'attentats, des risques d'hooligans, des risques de mouvements de foule. Ils sortent d'école, c'est leur premier poste qu'on leur met tout de suite dans les dents. Je veux dire, ça peut que mal se passer, c'est quelque chose qui dérape en fait. Et dernier petit point, c'est sur certains ADS, donc les adjoints de sécurité qui sont des contractuels de la police nationale, ils ont eu des formations tellement écourtées que faute de formateurs, il y a marqué « non formé ». Donc je veux dire, il y a vraiment un vrai problème.
Et on place ces personnes sur un terrain déjà délicat.
Les ADS normalement n'ont pas à être sur des missions délicates. Malheureusement, faute d'effectifs, des fois ils pallient aux gardiens de la paix parce qu'on utilise les effectifs qu'on a.
Pierre Douillard-Lefebvre, les terrains dont parle Alexandre Langlois, qui sont des terrains de fin de zone, ce sont aussi des terrains d'essai. Vous écrivez dans votre livre pour l'utilisation de certaines nouvelles armes.
Oui, bien sûr. D'abord, je suis assez sidéré par la façon dont un militant de la CGT a d'euphémisé un coup de poing dans le visage d'un mineur, qu'il soit jeune ou pas jeune. C'est quand même étonnant qu'un policier assermenté frappe. Donc sur la question des armes dites intermédiaires, hein, comme le disait Céline Berton, qui ont été appelées successivement sublétales, à létalité atténuée, etc., qui sont en réalité des armes à feu qui tirent des balles en caoutchouc et des grenades qui explosent en projetant des plots en caoutchouc, hein. Elles ont été initialement massivement utilisées dans une série de laboratoires que j'ai essayé de repérer comme ça dans mon ouvrage. Le premier laboratoire, évidemment, c'est les quartiers populaires. L'immense majorité des personnes gravement blessées ou tuées par la police le sont dans les quartiers populaires, et pour l'immense majorité, ce sont des populations immigrées ou descendantes d'immigrés. Hein. On revient au sujet qu'on abordait au début du reportage. La deuxième zone d'expérimentation de ces armes-là, c'est tout ce qui est qualifié de lutte, de mouvement d'ultra-gauche ou de ZAD, ou tout ce qui est mouvement incontrôlable. Donc je comprends là-dedans les mouvements jeunes, les mouvements lycéens, etc., qui sont très très fortement réprimés. Et on voit que là, dans ces configurations-là, les policiers ont généralement carte blanche pour utiliser ces armes-là.
Vous faites d'ailleurs allusion dans votre livre à ce rapport de Normand Fillion qui s'intitule « Il n'y a pas de raison pour que cela s'améliore » et qui justifie, selon ce que vous écrivez, une militarisation des moyens de la police dans les banlieues.
Ah bien sûr, il y a un corpus théorique hein, qui va de Alain Bauer qui parle de pré-terrorisme quand il s'agit de mouvements sociaux à ce sociologue de seconde zone qui justifie la militarisation de la police quand il s'agit de quartiers populaires. Et donc évidemment là ce qui a été au cœur des médias comme je disais, c'est les mouvements sociaux dits radicaux avec un récit médiatique qui vise à séparer entre guillemets le cortège de tête ou ce qui est appelé dans les médias les black blocs ou les casseurs et le reste du cortège qui ne tient pas vraiment la route. On a vu des militants de la CGT en avant du cortège dans les grandes manifs et réciproquement des militants qui se protégeaient le visage qui étaient avec les syndicalistes. Hein, il suffit de faire un peu les manifs pour s'en rendre compte. D'ailleurs, il y a un militant de la CGT qui a perdu un œil il y a quelques années à Strasbourg, un militant métallo. Et pour terminer sur le troisième terrain un petit peu d'expérimentation de ces armes-là, il y a le monde sportif, le monde du sport marchand avec des techniques et aussi de NAS, d'encagement et d'utilisation de balles en caoutchouc contre des supporters. Et donc ces trois laboratoires-là, ils ont été expérimentés ces 20 dernières années. On sait que la mort de Rémi Fraisse a constitué un peu un tournant également dans cette logique-là où à nouveau la police pouvait tuer un manifestant sans susciter de réelles grandes réactions, la gendarmerie hein, je précise. Et aujourd'hui on en est à un stade où ces armes-là, qu'on appelle armes intermédiaires, elles s'adressent à tous. C'est-à-dire qu'on peut voir des syndicalistes, des pompiers, des militants bonnets rouges, etc., se faire toucher par ces armes-là.
Donc on a Céline Berton, vous voudrez réagir depuis un petit bout de temps sur ce que vous dites.
Non, de manière plus globale, deux sujets, Alexandre Langlois. On évoquait les différents termes génériques qu'on peut être utilisés pour qualifier ces moyens de défense intermédiaires, ces armes à létalité réduite, voilà. Une chose dont il faut convenir, et personne ne se cachera derrière un petit doigt, ça demeure des armes. Et quand on s'en sert, quand on est en situation de s'en servir, c'est-à-dire quand on est en situation d'usage de la force ou de légitime défense, on prend le risque. Malheureusement, qu'elle blesse. Voilà, on ne va pas se cacher là, notre petit doigt, c'est une réalité. Je ne vais pas vous dire le contraire.
Voir qu'elle tue.
Mais elles sont à létalité réduite, elles tueront moins l'utilisation d'une arme à feu. Voilà. Deuxième sujet, le maintien de l'ordre en France. On a beaucoup conceptualisé le maintien de l'ordre sur la base de l'utilisation d'unités dédiées. Les compagnies républicaines de sécurité, les escadrons de gendarmerie mobile qui relèvent l'une et l'autre de la gendarmerie et de la police nationale, avec des gens formés en unités constituées, habitués à travailler en groupe et habitués à travailler de la méthode et de l'entraînement. Ce à quoi on a assisté ces dernières années, c'est effectivement pour les EGM, faute d'effectifs, des suppressions d'escadrons. Pour les compagnies républicaines de sécurité, faute d'effectifs, une réduction du nombre de personnel dans chaque compagnie. On a assisté, n'en déplaise, à un certain nombre de phénomènes qu'il a fallu qu'on traite, sur lesquels on a engagé beaucoup de forces mobiles. C'est le cas, par exemple, des flux migratoires. Jusqu'à présent, à ma connaissance, la police et la gendarmerie y sont pour rien. Sauf qu'on leur demande de traiter, il faut prendre en compte ces situations. On immobilise beaucoup de monde. Et force est de constater que sur les dernières manifestations, nous avons fait appel à des compagnies républicaines de sécurité, à des escadrons de gendarmes mobiles, mais qui n'ont pas été en nombre suffisant pour gérer la totalité des manifestations que nous avons eu à encadrer.
Et de fait, un problème de manque d'effectifs et de formation.
On fait appel du coup à des personnels plus généralistes qui œuvrent effectivement davantage habituellement sur d'autres types de missions, qui sont exposés du coup sur des terrains d'action qu'ils connaissent moins, qu'ils maîtrisent moins, le tout avec un risque de fatigue. Il ne faut pas le nier ça non plus. Les hommes et les femmes qui œuvrent en maintien de l'ordre, qu'ils soient policiers ou gendarmes, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça demeure des hommes et des femmes. Que ce ne sont pas des super-héros et ils peuvent commettre des erreurs. Alors, on applique, et je m'insurge contre le fait que de l'impunité de la police, parce qu'on essaie quand même d'appliquer une recherche de déontologie forte, et il y a une IGPN qui est quand même beaucoup montée en puissance pour justement poursuivre les actes quand ils sont commis, et a fortiori parce qu'ils sont plus graves, parce qu'ils sont commis par des agents assermentés. Je voudrais quand même rappeler, quand même, parce que ça aussi c'est des faits, il y a eu...
Je précise juste qu'IGPN, pour nos auditeurs, c'est
Inspection Générale de la Police Nationale, la police des polices, hein, pour faire clair. Et puisqu'on est soucieux des chiffres et que il faut aussi que vous n'ayez pas une information qui soit unilatérale. On parle de centaines de blessés. À ma connaissance, auprès de l'Inspection Générale de la Police Nationale, aujourd'hui, moins de 100 plaintes ont été déposées pour des faits de violence subis par des manifestants à l'occasion des centaines de manifestations qui ont eu lieu entre le mois de mars et le mois de juillet.
On va y venir, justement.
Avec, par bonheur, pour l'essentiel, des blessures peu graves et avec, et nous le regrettons, malheureusement, des personnes qui ont pu être un peu plus sérieusement blessées, sur lesquelles les enquêtes se poursuivent pour déterminer précisément les responsabilités.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Est-il possible d'aimer sa police? On en parle avec nos trois invités ce soir. Céline Berton, secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale, Alexandre Langlois de la CGT Police et Pierre Douillard-Lefebvre qui a signé l'arme à l'œil, violence d'État et militarisation de la police. Alors Céline Berton, vous venez de souligner justement ce nombre de plaintes assez peu élevé qu'ont déposé des manifestants à la suite de manifestations finalement où ils auraient subi peu de violence. Vous, Pierre Douillard-Lefebvre, avant de faire réagir Alexandre Langlois, dans votre essai, vous citez l'anthropologue Didier Fassin et vous dites que si les plaintes ne sont pas déposées en nombre, c'est aussi parce que les policiers, parfois, déposent plainte en premier et après, c'est quand même une confrontation de parole contre parole. C'est assez dissuasif.
Bien sûr. Alors moi, je vais vous parler de ce que je connais là sur la question des personnes qui ont perdu un œil ou l'usage d'un œil par une balle en caoutchouc. Donc je vous parlais de plus de 40 cas recensés là qu'on suit effectivement avec une structure qu'on appelle l'Assemblée des blessés par la police. Et donc sur ces 40 cas qui sont en procédure, il y a eu à ce jour deux condamnations à du sursis. hein. Donc je vous laisse, ça fait un pourcentage quand même extrêmement faible, et dans l'immense majorité, hein, ces affaires sont classées sans suite ou tout simplement le policier est relaxé. Par exemple, le policier qui m'a tiré dessus, moi, il y a eu un procès, hein, ce qui arrive très très rarement dans le cas de violence policière, et ce policier a été relaxé, non pas parce qu'il n'avait pas tiré, ou il a été relaxé parce qu'il avait obéi à l'ordre d'un supérieur hiérarchique, hein. C'est ce que dit le procès. Donc c'est étonnant comment ça, cette logique-là s'imbrique. Et je voulais juste réagir sur la question d'un manque de moyens et de formation. Les policiers n'ont jamais été aussi bien équipés et protégés en France. Ils n'ont jamais eu autant de moyens. D'ailleurs, c'est assez intéressant que sur fond de néolibéralisme et de loi travail, il y ait des primes de plus en plus substantielles données à la police, alors que les autres corps de l'État, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, il y a des coupes phénoménales. Et j'aurais plutôt tendance à penser que ce qui s'est passé là sur le mouvement de la loi travail, c'est plutôt un choix tactique du gouvernement. C'est-à-dire qu'on envoyait des unités particulières, c'est-à-dire des unités comme la brigade anticriminalité, hein, contre des lycéens, comme des compagnies d'intervention, qui sont des compagnies plus mobiles, qui vont frapper plus fort, qui vont attaquer les cortèges. Et également l'utilisation, on a vu, d'unités qui sont chargées de l'antiterrorisme ou du grand banditisme, comme le RAID ou le GIPN. Et donc le RAID, on l'a vu en action pour évacuer un squat à Rennes qui avait été ouvert par des opposants à la loi de travail.
Avant d'aller plus loin, Pierre Bouillard-Lefebvre, j'aimerais faire réagir Alexandre Langlois sur cette question. Est-ce que justement ce manque d'effectifs et donc l'envoi sur le terrain de policiers non formés ou mal formés, c'est une tactique? C'est un choix tactique, selon vous.
On est obligé de ratisser large parce qu'on n'a plus d'effectifs. Ça, c'est un fait. Voilà. Après, les manifestations, il y a une volonté de les utiliser, enfin de les encadrer comme c'est fait. Après, il y a d'autres façons de les encadrer qui sont peut-être moins consommatrices en effectifs et qui permettraient justement d'avoir que des unités formées pour ça. Les unités de la BAC, que je respecte tous mes collègues qui sont dans la BAC, ne sont pas formées à gérer des manifestations. Les collègues CRS n'en peuvent même plus après, parce qu'en fait, malheureusement, faute de formation, ils mettent le bazar dans la manifestation et c'est les CRS et les gendarmes mobiles qui récupèrent derrière. Pour les compagnies d'intervention, ils sont qu'on évoquait, ils sont formés aussi au maintien de l'ordre, mais moins bien que les CRS, ils ne font pas ça en permanence non plus. Donc pareil, quand ils sont engagés, c'est qu'il n'y a vraiment plus personne non plus. Donc il y a vraiment une volonté d'organiser les manifestations en fait, pour que ça se passe mal. Je vais donner deux exemples. Premier exemple, il y a une fois, il y a une manifestation qui commençait, je ne sais plus laquelle, au mois de mai, sur la loi travail, le métro était coupé. Tous les manifestants sont descendus de Montreuil, moi le premier, 5 stations de métro plus tôt. On a fait tout le parcours pour le départ de la manifestation sans aucun encadrement. Tout s'est très bien passé, aucun débordement. Ensuite, dans les manifestations, j'ai donné un autre exemple, c'était le 9 avril. C'est celle-là qui nous avait le plus marqué, parce qu'il y a vraiment tout qui s'est enchaîné cette journée-là. Donc des collègues qui étaient, on avait des délégués à peu près dans tous les points de vue, donc on a pu voir. Les casseurs, ce qu'on va appeler génériquement les casseurs, des gens qui ne sont pas venus manifester pacifiquement, ont été repérés, identifiés. Les ordres ont été de les laisser s'infiltrer dans la manifestation ce jour-là.
Les ordres que vous avez reçus?
Les ordres, c'était de ne pas intervenir, en fait, tout simplement. Donc, ça veut dire, par défaut, de les laisser s'infiltrer. Ils mettent le bazar à Bastille après. Donc là, il y a intervention. Ces gens sont beaucoup plus violents et mieux entraînés qu'avant, eux, par rapport aux manifestants pacifiques. Ils s'échappent en mettant le bazar sur leur parcours de fuite. Résultat, nos collègues vont disperser la foule, mais ils tapent sur les manifestants qui arrivaient derrière. Donc ça monte des tensions, ça met de la violence en plus, chacun s'énerve, et une réaction primaire, j'allais dire. Le manifestant qui s'est pris un coup, qui n'avait rien fait, il se dit « la prochaine fois, je vais me venger ». Et même chose, le policier qui s'est pris des pavés de 2 heures parce qu'il n'a pas eu le droit d'intervenir, il se dit « il y en a certains qui vont se dire « je vais me venger », même si normalement on a la formation et les choses adéquates. Donc encore, il faut nous donner les bons ordres. Pire, le soir même, il y a des 300 personnes, pareil, violentes, qui sont identifiées arrivant de Gare du Nord, qui disent « on va, objectif, arriver place de la République à nuit debout ». Une compagnie de CRS est sur le chemin. D'accord. Les ordres sont donnés de la pousser pour qu'ils puissent atteindre la place de la République. Donc ils atteignent la place de la République, ils mettent le bazar. Ce soir-là, ils vont dégrader un commissariat en plus, ces personnes-là. Et le seul moment où les ordres cohérents sont arrivés, c'est quand ces 300 personnes ont dit « on va aller
au domicile de Valls
prendre l'apéro ». Et là, du coup, toutes les rues ont été bloquées, 26 interpellations, fin du truc. Donc en fait, quand on veut nous donner les ordres cohérents, on est capable de faire. Par contre, quand on veut que ça se dégénère et que ça se passe mal, on nous laisse abandonner à nous-mêmes. Et c'est là que je disais tout à l'heure, par exemple, pour l'utilisation des armes...
Mais vous, Alexandre Langlois, excusez-moi, vous dites aussi que, en fait, si on veut porter plainte pour une action qu'on juge mauvaise ou violente, c'est plutôt aux donneurs d'ordre de s'adresser, que les donneurs d'ordre devraient plutôt figurer... être au tribunal.
Ils devraient être au tribunal, parce que sinon, ils vont recommencer avec le prochain, en fait. Et on a plusieurs choses. C'est quand un collègue utilise son arme, pour X raisons parce qu'il n'a pas les
effectifs. Mais ça, c'est un vœu pieux.
Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est un vœu pieux. Au bout d'un moment, chacun est responsable dans la chaîne hiérarchique, normalement. On a été mis dans cette position, voilà. Après, soit nous, on a le choix de désobéir, parce qu'on pense que sur le terrain, c'est mieux. Soit, à ce moment, on se fera sanctionner administrativement. Soit, on est perdant-perdant. Et pour le moment, le donneur d'ordre est gagnant-gagnant. Soit il dit, vous n'avez pas exécuté mon ordre, vous êtes fautif. Soit vous l'avez exécuté, mais ça se passe mal, c'est de votre faute. Quand on sort notre arme, c'est le collègue sur le terrain qui va être embêté, pas celui qui l'a mis dans la position où il a dû la sortir. Et ce qui est des dommages après sur la population, sur les personnels de la police, et ça donne des confrontations qui pourraient être évitées dans tous les sens en fait.
Céline Berton, est-ce que les donneurs d'ordre devraient être pénalisés dans le cas d'actions jugées violentes?
Alors je vais poser une question idiote, mais je voudrais savoir qui sont les donneurs d'ordre, parce que c'est bien joli, c'est joli de démonstration.
Vos supérieurs hiérarchiques, Alexandre Langlois.
Alors justement, nous on a un blackout à partir d'un certain niveau en fait, jusqu'à aux gens sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a des commissaires, des commandants, enfin sur le terrain qui exécutent les ordres et qui n'ont pas la vision d'ensemble. Pour nous, c'est à Paris, c'est le préfet de police et les gens qui le conseillent, donc les grands directeurs de direction, notamment à DOPC, etc. Parce que le préfet de police, il ne va pas faire notre métier à notre place, il prend des conseils quand même, on imagine. Donc après, c'est tous ces gens-là qui font, qu'organisent le dispositif et qui nous placent dans des situations qui sont catastrophiques pour tout le monde, en fait. Et on a la deuxième preuve, quand on veut que ça se passe bien, ça se passe bien. C'est que les dernières manifestations sur la loi travail se sont bien passées, en fait. Quand les moyens ont été donnés, l'organisation a été faite, il n'y a pas eu de débordement, en fait. Donc, on voit bien que le problème n'est pas sur les collègues de terrain qui font leur travail comme ils peuvent avec les moyens du bord, mais bien dans l'organisation de la manifestation en amont.
Pierre Douillard-Lefebvre, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre?
Oui, moi, cette approche qui est quand même très très proche du complotisme, elle me pose question. Enfin, Monsieur Langlois fait partie de travail pour le ministère de l'Intérieur. Il faut qu'il en parle à Bernard Cazeneuve. Il accuse là très clairement Bernard Cazeneuve de laisser des hordes de Black Bloc saccager Paris. Moi, ça me pose question, cette logique complotiste. Personnellement, ça correspond pas du tout à ce que j'ai pu voir sur les nombreuses manifestations du mouvement sur la loi travail.
Qu'est-ce que vous y avez vu, vous, Pierre Douillard-Lefebvre, en revanche?
J'ai vu une police qui n'avait jamais été autant omniprésente, collée au cortège, qui chargeait le cortège, qui extirpait des personnes, qui faisait des clés d'étranglement, qui tirait des grenades lacrymogènes, y compris sur les cortèges syndicaux, et qui faisait monter la tension. Avec une militarisation de l'espace, l'utilisation d'hélicoptères également, hein, on l'a vu à Nantes ou Rennes, un hélicoptère systématiquement. Et d'ailleurs, je suis assez sidéré également par Monsieur Langlois de la CGT, qui se félicite que les dernières manifs se soient bien passées, alors que précisément, les dernières manifs sont un recul sans précédent. Le lieu de rendez-vous des manifestations était une nasse géante. S'il parle de la manifestation qui a été entièrement interdite après le 14 juin, qui avait suscité une grande polémique à l'époque d'ailleurs, c'est la première fois qu'une manifestation doit faire des ronds autour d'une place entourée par des policiers et sous un hélicoptère. Moi, j'appelle ça plus une situation carcérale qu'une situation de manifestation. Donc, je suis étonné qu'on puisse se féliciter de ce qui s'est passé ce jour-là, moi.
Avant de faire réagir Alexandre Langlois à ce que vous venez de dire, Céline Berton, je voudrais vous reposer la question, finalement, à laquelle vous n'avez pas répondu. Est-ce que les donneurs d'ordre devraient être responsabilisés plutôt que les policiers sur le terrain, si on suit le raisonnement?
Je vais répéter ma question. Je suis désolée de vous répondre comme ça, mais le concept de la tactique ou de la stratégie organisée, personnellement, j'en ai pas été témoin. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le maintien de l'ordre n'est pas un exercice ni simple, ni scientifiquement parfait. Qu'assurément, pour les représentants de l'État et notamment les membres du corps préfectoral à qui il appartient dans chaque département d'assurer le déroulé de ces maintiens de l'ordre avec les conseils techniques des chefs de police et toute la chaîne policière derrière, c'est un exercice toujours très complexe. Je pense, et il n'est pas, à mon avis, pas inexact de dire que quand les premiers rassemblements ont eu lieu dans le cadre de la loi El Khomri, notamment dans le cadre des manifestations qui ont pu avoir lieu devant les établissements scolaires, qui ont notamment donné lieu à ces faits qui sont poursuivis pénalement, et on attend de savoir de quoi est copain.
Donc vous faites référence au coup de poing,
tout à fait. Ça a généré notamment à grand renfort d'exploitation médiatique des images, ça a généré une ambiance un peu particulière, une ambiance de grande tension sur comment est-ce que les choses allaient se passer. Ça a probablement, il m'appartient pas de parler en leur nom, ça a probablement dû jouer sur la manière dont le mouvement a été appréhendé, en se demandant comment est-ce qu'on allait gérer, en faisant en sorte de laisser les gens exprimer leur droit de manifester, et je rappelle que les policiers républicains y sont très attachés, mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas de surdébordement. Voilà. Donc, les donneurs d'ordre, vous savez, un policier a le droit de désobéir, c'est prévu par la loi, quand un ordre est illégal. Et un policier qui désobéit parce qu'un ordre est illégal ne sera pas poursuivi par sa hiérarchie.
Voilà. Alexandre Langlois.
Alors pour le donneur d'ordre, c'est facile, c'est, j'allais dire, c'est celui qui a mis le collègue dans les situations et qui, ceux qui ont la vision d'ensemble sur les manifestations. Parce que les compagnies de CRS, etc., même à certains niveaux, les collègues sont juste à leur point de niveau. Donc celui qui a la vision d'ensemble, voilà, pour le donneur d'ordre sur les manifestations.
Juste une précision technique, quand vous dites par exemple que vous ne recevez pas d'ordre par rapport aux casseurs que vous voyez arriver, vous les attendez de qui précisément ces ordres?
Ça monte sur la conférence radio, qui est la salle de commandement, dit « vous faites rien ». Voilà, et après, la salle de commandement, c'est eux qui donnent, qui dispatchent et qui donnent les ordres avec les gens qu'on préparé le plan d'ensemble. Ensuite, sur les ordres illégaux, on va rebondir dessus, c'est qu'on a un nouveau code des déontologies de la police nationale de 2014, qui est catastrophique. On va pas se le mentir, parce qu'il y a deux choses. Un, dedans, avant, les policiers, dans le code de déontologie de Monsieur Jox de 86, les policiers avaient deux choses. Ils étaient au service des institutions de la République et garants des libertés individuelles. Dans le nouveau code de déontologie, les policiers, on a rayé garants des libertés individuelles, ça n'existe plus, et on n'est plus au service des institutions de la République, mais des institutions et des intérêts majeurs de la nation. Ce qui veut dire qu'on passe de la police du service du peuple au service du pouvoir en place, ce qui est quand même un grand changement. Ensuite, pour l'ordre illégal, avant on pouvait refuser un ordre illégal avec un truc complexe, c'était possible. Maintenant, l'ordre doit être illégal et remettre gravement un intérêt en cause. Donc en fait, il y a l'ordre légal, illégal et pas trop illégal, ce qui pose quand même problème dans quelque chose de carré juridiquement normalement. Donc ce code de déontologie permet de tout faire et tout et n'importe quoi. Ensuite, il y a aussi une chose qu'on n'a pas parlé depuis le début de l'émission, c'est qu'il y a eu l'état d'urgence qui a été mis en place.
Je l'ai dit en début d'émission.
Ouais, voilà, mais je viens, on n'en a pas rebondi dessus en fait. Donc en plus d'épuiser les collègues, etc. Donc ça, voilà, on est utilisé à faire n'importe quoi, parce qu'on avait fait on a fait des perquisitions administratives à tour de bras pour faire de la communication. Mais sur le maintien de l'ordre, ça veut dire qu'on a eu des choses qui ne sont plus judiciarisées, mais qui sont administratives, avec des interdictions de manifester administratives par contre. Aberrant, soit la personne a fait quelque chose de répréhensible et on le met devant la justice, soit il a rien fait, il a le droit de manifester en fait. On peut pas se lancer dans un pouvoir administratif qui squeeze complètement toutes les libertés individuelles. Donc il y a vraiment une dérive un petit peu autoritaire de la police là.
Mais justement, Alexandre Langlois, vous rebondissez aussi à juste titre, vous remettez en contexte notre débat qui est celui de l'état d'urgence. Je me rappelle dans une interview que vous aviez accordée au journal L'Humanité, où vous plaignez d'une perte de sens de votre métier qui est trop souvent vue sous l'angle de la statistique.
Ah ben complètement.
Est-ce que c'est encore pire maintenant?
Ben c'est encore pire parce qu'on nous demande plus de missions statistiques. Vu qu'on a plus de missions, il faut qu'il y ait de la rentabilité statistique qui n'a rien à voir avec l'efficacité sur le terrain. On a pu le voir on va reprendre l'état d'urgence. Il y a eu 3000 perquisitions dans la première période, plus de 3000 perquisitions. 4 pour fait de terrorisme, je veux dire qu'on a été poursuivis, 25, mais 21 pour l'apologie. Donc voilà, c'est la liberté d'expression. Donc ça ne sert à rien en fait.
Céline Berton, je vous laisse conclure. Il nous reste une minute.
C'est un travers, le sujet de la statistique. Je pense que c'est un travers général de l'administration française qui est que quand on donne des instructions pour qu'une mission soit accomplie, on a besoin d'en rendre compte et il faut que ça passe par des chiffres. On est aussi les premiers à le dénoncer. Mais je crois qu'il faut quand même, avant tout, qu'on se rappelle et il ne faudrait pas schématiser la police nationale sur le sujet d'épingle, qui est un sujet important du maintien de l'ordre. Mais je rappelle quand même que les policiers du quotidien, ceux qui veillent sur les Français, ceux qui abattent les conducteurs de camions fous qui tuent sur la promenade des Anglais, ce sont aussi des policiers qui peuvent être sur les manifestations, ce sont aussi les policiers qui répondent sur les appels police-secours. Donc voilà, qu'on ne limite pas la police à quelques excès.
En tout cas, on aura compris que le contexte dans lequel vous travaillez et dans lequel donc les manifestants subissent aussi ce maintien de l'ordre n'aide pas à la réconciliation en ce moment de la population avec sa police. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce plateau. Céline Berton, secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale, Alexandre Langlois, secrétaire général de la CGT Police, et Pierre Douillard Lefebvre, auteur de L'arme à l'œil, violent d'État et militarisation de la police, un ouvrage paru dernièrement aux éditions du Bord de l'Eau. Vous pouvez réécouter, podcaster, commenter cette émission sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. L'équipe de ce Grain, c'est Chloé Leblon, Philippine Lebray, Meryl Moneghetti, Tanguy Omri, Hervé Marchon à la réalisation et à la prise de son ce soir. C'était Dauphard Guéride. On peut aussi se parler sur Twitter.